plus qu'elle-même. À ce moment-là, pour l'initié, commence le véritable moment de la restitution, de la réintégration divine. Tant qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas entendu ce chant, ce qui ne veut pas dire que vous devez tendre l'oreille et entendre quelqu'un chanter « Je suis cela ». Cela va plutôt se traduire comme la conviction dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que profondément, en vous-même, vous ressentirez presque comme à fleur de peau que vous êtes une âme. Et automatiquement, vous n'aurez même plus envie que l'on vous appelle par votre prénom, ou que l'on vous rappelle les souvenirs d'enfance. Vous aurez l'impression que l'on vous parle d'une autre personne qui n'a presque jamais existé, tellement elle était différente de ce que vous êtes maintenant. Lorsque vous aurez donc atteint cet endroit du chant et de la conviction, toutes les énergies qui pendant un certain temps, pendant des incarnations et des incarnations, sont allées vers l'extérieur, toutes les énergies vont faire le mouvement inverse et rentrer vers l'intérieur. Ce qui fait qu'à un certain moment de la roue et de la vie, il est dit que ce genre d'initié n'a plus besoin de s'incarner. C'est ce que l'on appelle un libéré vivant. Étant donné que le regard de son âme ne se porte plus sur les objets extérieurs, qu'aucun objet extérieur arrive à attirer son regard, même si le regard voit les objets, ce genre d'individu rentre donc toutes les énergies à l'intérieur, commence la restitution. Et cette restitution est un mouvement qui fait aller la conscience vers le haut, alors que l'incarnation est un mouvement qui fait aller la conscience vers le bas. Si la conscience donc émet un mouvement qui monte vers le haut, le mouvement vers le bas va cesser complètement. Et l'incarnation n'est plus une nécessité. Elle peut avoir lieu quand même. Elle peut être un moyen d'aider l'humanité à cristalliser certaines énergies. Elle peut être un moyen de servir l'humanité ou de servir un certain nombre d'hommes vis-à-vis desquels anciennement cette âme s'était engagée. Mais l'individu n'a plus à s'incarner pour sa propre évolution. La terre n'a plus rien à lui apporter. Tous les objets que la terre recèle ne sont plus en fait synonymes de pesanteur. Ils se sont dissous et la conscience peut commencer à monter. Alors vous pouvez me dire que imaginez ce moment de libération est quelque chose d'extraordinaire, que c'est quelque chose de souhaitable, que vous voudriez rencontrer cet instant-là le plus tôt possible, et qu'il est magnifique dans l'univers que cet instant existe. Mais sitôt que vous allez commencer à comprendre que cet instant est merveilleux, étant donné que le mental pense toujours par analyse, vous allez aussi me dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut alors tomber dans la matière si l'on doit de toute façon retourner vers Dieu et si l'on est profondément Dieu lui-même? Je ne vais en dire que quelques mots parce que je l'ai déjà expliqué suffisamment, mais pour donner une cohérence au discours, je vais en dire quelques mots. Lorsque l'on étudie, ou lorsque l'on essaye de sentir, d'intuitionner ce que peut être la conscience, pour tous ceux qui ont basculé quelque peu dans la conscience, le discours sera facile. La conscience est un endroit où il y a simplement de la conscience, c'est-à-dire un état de contemplation. Un état de contemplation d'un objet extérieur ou d'un objet intérieur. Comme par exemple Dieu se contemplant lui-même. Ce qui ne veut pas dire que Dieu n'a pas autre chose à faire que de se contempler lui-même dans un acte narcissique. Le fait qu'il soit conscient, c'est que la conscience soit un processus de contemplation, fait que Dieu, au moment où il se trouve dans le manifesté, où sa vie donc appartient quand même déjà au manifesté, sa conscience est en contemplation sur son propre processus de vie. Il y a donc la conscience, mais pour que cette conscience existe, il y a le feu de la conscience. C'est-à-dire que si l'on résumait l'existence de Dieu à sa seule conscience, il n'y aurait pas d'existence. Mais ce qui permet l'existence de la conscience, c'est qu'à l'intérieur de chaque particule de la conscience se trouve logé le feu de la conscience, l'électricité de la conscience, le potentiel vibratoire de la conscience. Sans ce potentiel vibratoire, il n'y a pas de conscience. Maintenant que nous avons quelque peu expliqué cela, analysons le pourquoi de l'incarnation. Il y a donc la conscience, et pour être vivante, le besoin de rencontrer son énergie, le besoin de dilater l'énergie qui est recelée dans les particules de la conscience. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a qu'un seul endroit où toute cette énergie abonde. Parce que tout simplement, les particules de conscience sont concentrées, sont compactées à un niveau inimaginable pour la conscience humaine, même si l'on croit pouvoir comprendre ce qu'est la matière. Il n'y a qu'un endroit où la conscience est si compacte et permet donc un tel nombre au centimètre carré de particules de conscience, c'est la matière. Ce qui veut dire que d'un côté, il y a la pensée divine, pour prendre un terme qui peut-être passera mieux dans le public. Décrochons-nous du mot conscience et prenons le mot pensée pour être plus compréhensible. Il y a donc la pensée divine et il y a de l'autre côté le moyen par lequel cette pensée est véritable et vivante et qui se trouve dans la matière, c'est l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la matière existe? Ce qui fait que la matière existe, c'est que il y a à un moment donné de la contraction, de la cristallisation pendant la manifestation de Dieu, donc de sa conscience. Il y a donc à un moment donné, pendant la contraction et la cristallisation, une part de lui-même qui est plus particulièrement compactée et cristallisée, donc vouée à la matière. C'est un peu comme si l'on imaginait l'inexistence, le point zéro, où tout repose lorsque l'univers n'est pas. Et puis vient un jour où l'univers est. Il y a donc extériorisation de la conscience et extériorisation d'une forme de la conscience beaucoup plus cristallisée et compactée. Et cette forme de conscience est donc la matière. Et ainsi, l'on trouve dès l'origine le couple conscience-matière. Donc, le couple Dieu et cosmos. Car le cosmos, c'est de la matière. Maintenant, que va-t-il se passer? Lorsque ce cosmos est établi, lorsque la matière a été suffisamment cristallisée, même si elle n'est pas pour autant devenue très solide et sur un plan physique, lorsque ce cosmos est cristallisé, et lorsque ce Dieu en tant que conscience régnante lui aussi est sorti au jour, il se passe une rencontre des deux. Ce qui ne veut pas dire que l'un et l'autre sont nés dans le but de se rencontrer. Mais le simple fait qu'ils aient été créés les fait se rencontrer. Parce que tout simplement, il y a dans l'univers une loi d'attraction. Cette loi d'attraction, vous la subissez vous-même lorsque vous tombez follement en admiration devant, par exemple, un immense gâteau et que vous avez envie de le dévorer. C'est exactement la même force d'attraction qui a lieu. Que ce soit la force d'attraction entre la conscience de Dieu et sa matière, ou que ce soit la force d'attraction entre votre petite conscience et le chou à la crème chez le pâtissier, c'est exactement la même puissance d'attraction. Et c'est parce qu'existe cette puissance d'attraction dans le premier couple, qui est Dieu et matière, que vous aussi vous l'éprouvez pour des choses simples entre votre conscience et les objets du désir. Donc, pour l'homme, pour trouver sa liberté ou sa dimension divine, tout le jeu va être d'arriver à dissocier, à découper, à trancher, annuler cette force d'attraction qu'émettent les objets sur sa conscience. Et pour Dieu, lorsque Dieu voudra se réintégrer lui-même à la fin de tous les âges, lorsqu'il s'approchera de ce que l'on appelle le pralaya, pour Dieu, il s'agira aussi de découpler cette force d'attraction afin qu'il ne soit plus sans cesse rejeté dans sa matière, réinvesti dans sa matière. Autrement dit, il y a l'inexistence. Puis arrive la création et l'existence a lieu. Dans cette existence, le premier point de création est conscience de Dieu, matière de Dieu. Et lorsque ces deux pôles sont en place, automatiquement leur moteur se met en route et la loi d'attraction a lieu. Et les deux vont commencer à fabriquer l'univers, tout en se démultipliant. C'est-à-dire que ce premier couple ne va pas simplement rester tel qu'il est. Il va se démultiplier. À l'intérieur de la petite sphère qu'il aura créée, ce premier couple va s'y incarner. Puis, à travers cette incarnation, il y aura une autre incarnation plus petite encore, qui aura lieu dans une autre sphère. Puis par cette autre incarnation, une autre incarnation sera projetée. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à la forme de couple que l'on a appelé Adam et Ève, et qui ne correspond qu'aux archétypes humains et d'un humain en état de création. Il y a donc le couple originel tel que l'on entend dans les lois cosmiques, et il y a donc le couple originel tel que on entend le déroulement de cette loi du point de vue de la création de l'âme humaine. Lorsque je dis cela, je veux dire que pour l'homme qui arrive à comprendre facilement qu'il est Dieu et qu'il se rattache à la source unique, il devient tout de suite très compliqué d'imaginer qu'il y a ensuite des subdivisions et que malgré ces subdivisions, il reste Dieu, le grand archétype. Et pourtant, c'est comme cela qu'il faut le comprendre. C'est que malgré les subdivisions, son archétype n'est pas en fait diminué. Il est tout simplement adapté à une forme de vie qui va de plus en plus aller s'exprimer vers le plan physique. Tandis que le mouvement inverse a lieu au moment où le disciple, grâce à son illumination, commence la réintégration. Il se dépouille de tout ce qu'il avait d'humain, il se dépouille de tout ce qu'il avait même d'initié, pour petit à petit redevenir ces grands couples cosmiques. Ce qui fait dire à certains sages qu'en fait, la vie humaine est un grand mirage, qu'il y a simplement la vie d'un grand et unique Dieu qui s'amuse à travers une multitude de formes, qu'elles soient humaines ou autres, mais que c'est toujours lui et lui seul qui s'amuse et qui anime ces formes. Bien sûr, lorsque l'on regarde la vie du cosmos depuis le balcon le plus haut, il s'agit bien de cela. Mais lorsque l'on regarde l'animation du cosmos depuis des balcons un peu plus bas, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ou plus que Dieu qui existe à ce moment-là. Il y a aussi une entité qui existe tout autant que Dieu et qui est capable de défier Dieu lui-même. C'est l'homme. En ces temps subdivisés, pour aller au plus profond de la matière, Dieu a finalement abouti un jour à une forme humaine, à un statut humain. Et cet homme a cela de particulier que non seulement il est capable de comprendre qu'il est Dieu, mais il est aussi capable de comprendre qu'il est homme et qu'il a droit de faire ce qu'il veut. Grâce à ses statuts divins, ce qui fait que pendant longtemps, pendant des siècles, pendant des générations, le Dieu qui est un et un seul s'abîme à être un homme qui ne veut pas redevenir un Dieu et qui veut devenir l'homme le plus puissant du monde. Pour les maîtres, à ce moment-là commence un long et difficile travail d'apprentissage, de conversion. Ils essayent autant qu'ils le peuvent de rappeler le Dieu qui est endormi dans l'homme. Pourquoi? Non seulement parce que il ne faut pas laisser dormir Dieu derrière soi, alors que soi-même, en tant que maître, l'on connaît l'étendue de la conscience divine, mais parce que toutes les particules de Dieu qui se sont projetées dans un cosmos, même si c'est un cosmos local, comme par exemple le système solaire actuel, toutes ces particules de Dieu doivent, suivant des âges bien précis, suivre certains mouvements de réintégration. Il y a donc la conscience de Dieu qui s'incarne dans sa propre matière, elle-même n'étant que de la conscience contractée, mais il y a des âges qui passent comme les pales d'une roue à aube d'un bateau et qui, immanquablement, ces pales viennent ramasser les particules de conscience, car il faut que Dieu se reconstitue. Dieu n'est pas fait en quelque sorte pour être éparpillé dans le cosmos. Cet éparpillement est nécessaire pour que ces énergies se réactualisent, se régénèrent, se renforcent, se rajeunissent. Mais là n'est pas sa nature de rester éparpillé. Sa nature est de rester concentré sur lui-même. Dans cette zone que l'on appelle même le néant. Donc, immanquablement, les cycles vont aller racler dans le fond des mondes toutes les particules de conscience du Dieu qui s'est éparpillé. Et au fur et à mesure de la remontée, l'âge qui est en train de porter ces particules de conscience, cet âge-là fait un mouvement cyclique d'avant en arrière, un peu comme si vous voudriez secouer une salade. Ce mouvement existe juste pour permettre un certain mouvement de la conscience des particules, de façon à les redynamiser, à les repolariser en tant que particules divines. Et un peu à la façon d'un tamis, l'âge, à force d'avoir poussé en avant, poussé en arrière, avoir essayé de dynamiser les consciences, rattraper des consciences, purifier des consciences, comme un tamis, l'âge qui fait ce mouvement va aussi laisser retomber les particules de conscience qui n'auront pas voulu se laisser dynamiser. Et ces particules de conscience, non seulement vont perdre leur statut humain, mais vont retomber tout simplement au niveau de la matrice qu'est la matière. Autrement dit, Lorsque l'on en arrive à des phases d'évolution comme l'évolution humaine, qui est une phase d'ouverture vers la conscience divine, toutes les particules de conscience, même si elles sont arrivées à un niveau humain, toutes ces particules de conscience qui n'acceptent pas ou qui ne veulent pas être dynamisées par une divinité plus puissante que celle qui est uniquement potentielle, ces particules-là se trouvent renvoyées dans la matrice qu'est la matière. Et une particule qui avait petit à petit remonté le temps pour un jour en fait arriver à être un homme et à commencer sa réintégration avec Dieu ou avec son archétype, avec sa source. Cette particule-là se trouve privée de toute ascension et retourne à la matière pour devenir par exemple l'atome d'un rocher, l'atome d'un cristal de roche, l'atome d'une goutte d'eau. Il est donc très important non seulement que les hommes se réveillent, mais qu'ils se réveillent en plus dans une vision spirituelle. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne seront pas spirituels seront les damnés qui retourneront à la matière pour ne servir que de rochers ou de légumes ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y a pas de jugement sur le fait qu'un individu accepte d'être spirituel ou pas. Un individu qui a le souci simplement d'être vrai, authentique, libre et de marcher libre et épanoui, de marcher debout et de servir à quelque chose dans le monde pour les autres hommes, cet individu-là, même s'il ne prie jamais Dieu et qu'éventuellement même s'il ne croit pas en Dieu, est plus spirituel que celui qui éventuellement passe sa vie dans un couvent ou dans un monastère. Donc, il ne s'agit pas d'un jugement moral. Il ne s'agit pas d'un jugement religieux. Il s'agit d'un jugement sur le degré de vie et de brillance, le degré d'électricité qu'émet votre particule de conscience. Si votre particule de conscience n'émet pas un degré de brillance, et quand je dis brillance, je ne veux pas dire cela en termes de pureté religieuse. Je parle de brillance à cause de l'intensité vibratoire de la vie que votre particule a développée. Si votre particule de conscience, donc, émet cette vibrance et cette brillance, ce halo, automatiquement, le mouvement continu et l'âge qui vient la ramassera. Ce sera un phénomène tout à fait naturel. Si par contre, votre brillance n'est pas là, et je le répète, ce n'est pas en termes religieux que je dis le mot brillance, c'est tout simplement en capacité d'émettre de l'énergie. Et cette énergie est directement liée au niveau de conscience atteint. Si par contre des particules de conscience ne peuvent pas émettre un certain degré d'électricité, donc de conscience, automatiquement le tamis de l'âge qui vient ne pourra pas les attraper, même si l'âge voudrait les prendre, il n'arrivera pas à les attraper. C'est un peu comme un programme radio qui promène sur les ondes. Un programme radio est typé à cause du type d'onde qu'il représente. Ce qui fait que l'individu qui est au bout de sa radio va devoir se mettre en accord avec le type d'onde qui correspond au programme pour capter le programme. Et ainsi, il apprend le programme. Il s'agit à peu près de la même chose lorsqu'un âge arrive, l'âge émet une certaine vibration. Il est lui-même une certaine vibration. Et pour que les individus entrent dans cette vibration, il faut qu'eux-mêmes se soient adaptés à la vibration. De cette façon-là, ils sont comme happés par le nouvel âge qui vient et automatiquement, ils sont transportés dans le nouvel âge. Heureusement, malgré cet aspect de justice froide que semblent comporter les âges, malgré cela, les âges sont assez dociles. Tant que l'on n'a pas bouclé la boucle de l'horoscope tout entier, que l'on n'est pas donc passé à travers les 12 signes, les âges sont assez dociles. Et l'on voit par endroits même des groupes qui n'auraient pas dû avoir le droit de passage, mais passer quand même, parce que karmiquement, quelque chose leur permet de bénéficier d'un certain droit de passage. Donc, il ne faut pas imaginer que les âges sont là comme des grands juges vis-à-vis de l'humanité. Il y a quand même une certaine souplesse, une certaine tolérance. Cependant, pour ceux qui sont franchement en dessous du seuil de tolérance, alors pour cela, on peut dire qu'il y a effectivement un certain jugement. Ce qui ne veut pas dire que ces âmes-là sont définitivement rejetées dans la matière pour servir à la fabrication de n'importe quel élément. Tant que la boucle n'est pas bouclée, les individus sont gardés dans un état que l'on appelle pralaya, qui est une sorte de sommeil, une sorte de néant. Et petit à petit, par petits groupes, les maîtres de l'évolution, les seigneurs du karma, essayent de faire se réintégrer des portions de ces individus qui n'ont pas pu passer dans un nouvel âge. Ils essayent malgré tout, par petits groupes, de les prendre et de les intégrer dans les nouveaux âges, une fois que les âges sont bien implantés. Donc une fois que l'air s'est véritablement épanoui sur la terre. C'est à ce moment-là que l'on voit arriver ce que l'on appelle des jeunes âmes. Mais en fait, ce ne sont pas des jeunes âmes. Ce sont tout simplement des âmes qui ont été suspendues un certain temps, mais qui karmiquement avaient quand même un certain crédit. Il y avait quand même quelque chose à leur apporter, elles le méritaient, et automatiquement, la porte leur a été ouverte, mais à l'instant où cela était le plus propice pour les âmes et le moins dérangeant pour les autres qui avaient pu passer dans le nouvel âge. Ce qui fait que l'on espère qu'au fur et à mesure des âges et de ces portes que l'on ouvre, finalement tout le compte des particules qui avaient été émises, tout le compte de ces particules va pouvoir réintégrer la source. C'est ce qui est espéré, c'est ce qui est voulu. Car à partir du moment où Dieu s'est éparpillé pour s'incarner et qu'il s'est oublié dans cet éparpillement, pour tous les anges qui ont assisté à la création et qui maintiennent la création, pour tous les êtres qui ensuite sont arrivés à une certaine évolution et qui ainsi sont arrivés à des niveaux comparables à ceux des anges. Pour tous ces individus-là, il s'agit de prendre soin du Dieu qui est resté en arrière. Il ne s'agit pas simplement de se dire, oh ben, c'est Dieu depuis le début qui mène l'histoire. Il s'est projeté quand il l'a voulu, il s'est projeté dans tous les niveaux qu'il a souhaité. Nous, on s'en est tiré parce que l'on a été très chanceux, mais on laisse Dieu, celui qui est derrière, faire le reste de son histoire. Même si c'est Dieu qui a créé toute l'histoire, même si c'est lui qui a décrété de son éparpillement, de son type d'incarnation, même si donc il avait prévu le type de prison avec tous les risques que cela comportait, il n'empêche qu'une fois qu'il est devenu homme, il appartient à tous ceux qui sont devenus plus que des hommes, qui sont devenus soit des maîtres, soit quelque part des guides de lumière, soit pour ceux qui sont restés des anges ou des archanges. Il s'agit pour tous ces êtres-là de faire en sorte que l'entier de Dieu soit réintégré. Car si l'entier de Dieu n'était pas réintégré, il ne pourrait pas y avoir de vie continue dans le cosmos. C'est pourquoi tout le monde semble vous presser. Tout le monde semble vous dire, écoutez, maintenant c'est urgent, il faut passer dans l'ère du Verseau. Et en plus de passer dans l'ère du Verseau, il faut passer définitivement dans une phase spirituelle pour la Terre. Mais pourquoi? À qui cela sert-il? Pourquoi est-ce que cela doit être fait ainsi? Si Dieu s'est incarné, après tout, il a toute l'éternité pour revenir de sa matière, n'est-ce pas? Bien sûr, il a des âges extrêmement longs que l'on peut appeler éternité. Cependant, il ne faut pas croire que le temps de la réintégration peut durer autant que l'éternité peut durer. C'est faux. Il y a un âge pour sortir, il y a un âge pour rentrer. Et si à l'instant où la réintégration doit être faite, qui sonne comme une heure cosmique, si la réintégration n'est pas faite, eh bien c'est un peu comme un individu qui ne rentrerait qu'avec la moitié de son corps chez lui. Et automatiquement, il lui faut très vite se reprécipiter dans l'incarnation et dans la matière. Exactement comme lorsque un homme meurt par accident, alors qu'il n'avait pas terminé son destin. Automatiquement, son âme sait contrôler les lois et exister des pressions sur les lois qui lui permettent d'être reprécipité tout de suite dans la matière, dans l'incarnation. Et de ce fait, le destin peut terminer son cours. Si l'on prend le cosmos tout entier comme étant une seule et même incarnation de Dieu en personne, et que l'on imagine qu'à un moment donné, un certain nombre de ces particules qu'il a éparpillées dans le cosmos ne reviennent pas à l'heure du rendez-vous. Eh bien, il s'agit pour Dieu exactement du même moment que celui que je viens de citer. C'est-à-dire que le pralaya, dans lequel il s'endort normalement, le repos vers lequel il va normalement après toute création, ce repos-là ne peut pas avoir lieu. Il est créé, mais très vite dissous, et l'entité divine doit se replonger dans la matière pour aller chercher toutes les particules qui étaient restées dans ces cosmos profonds. Donc, quand vous me demandez ce qui a changé sur la Terre, ou quand vous me demandez ce que vous devez faire pour évoluer, je vous trouve impitoyablement égoïste. Vous n'avez pas à évoluer, vous n'êtes pas là pour évoluer. Qui êtes-vous pour évoluer? Qui êtes-vous pour vouloir devenir disciple, initié, maître? Pour vouloir être libéré de la roue des incarnations, pour vouloir avec votre petit moi obtenir la lumière, obtenir la vie paradisiaque, la vie à Shambhala ou ailleurs. Vous êtes complètement ignorant de la plus grande vie qui vous habite et de la plus grande cause qui est votre cause. Et vous vous dites, si je dois évoluer, si je veux évoluer, c'est pour ma propre évolution. On me dit qu'il faut évoluer, qu'il faut aller vers Dieu. Et moi, le petit homme, je vais devenir Dieu parce qu'il se trouve que Dieu est très généreux et qu'il m'a donné en héritage son archétype. Et si j'imite bien le Père, j'obtiendrai cet héritage et je deviendrai Dieu. Il n'y a personne qui devient Dieu. Et un humain ne devient certainement pas Dieu. Il y a un Dieu qui s'incarne. Et toi, l'homme, l'homme psychologique qui existe à un moment donné de sa vie et de sa roue dans la matière, toi, l'homme psychologique, tu te dis « je suis Dieu » ou tu te dis « je dois évoluer » ou tu te dis « je dois devenir un initié » ou bien « je dois devenir un maître » et tu es là à pleurer ou à crier ou à invoquer le nom de Dieu. Alors que tu dois prendre soin de la plus grande cause qui est en toi, qui est de ramener Dieu à sa source. Maintenant, si tu veux appeler cela évolution, c'est libre à toi. Si tu veux appeler cela initiation, c'est libre à toi aussi. Mais avant tout, il s'agit d'un Dieu qui s'incarne dans son cosmos, qui passe à travers toutes les formes pour se dynamiser, pour récupérer du feu, pour se rajeunir, comme je l'ai déjà dit. Bien qu'il ne faut pas croire que Dieu cherche vraiment à se rajeunir dans la matière. Il se réactualise, il se perpétue. En obtenant à chaque création, en obtenant ainsi des feux nouveaux, des feux réalimentés, grâce à la friction de la conscience dans la matière, l'entité divine se perpétue. Ce qui ne veut pas dire que si cette perpétuité n'existait pas ou n'était pas permise ou possible, Dieu ne serait pas éternel. Dieu est éternel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'on veut commencer à comprendre quelque chose en spiritualité, il faut très tôt s'habituer à manipuler les paradoxes. Le fait qu'il se perpétue ne remet en rien en cause son éternité. Il est éternel. Et je ne veux pas jouer sur les mots en disant que son éternité, pour exister, a besoin de se perpétuer. Mais c'est quelque chose quand même qui ressemble à cela. Il y a donc une sorte d'existence profonde que l'on peut appeler le néant, dans laquelle l'éternité peut être imaginée comme vous la concevez en tant qu'éternité. Et puis il y a les cycles de l'éternité. Et ces cycles ne remettent en rien en cause la valeur éternelle de l'éternité. Car les cycles ne sont pas des moments, des heures, ce n'est pas du temps. Ce sont tout simplement des époques, exactement comme un mouvement qui se fait l'un après l'autre, sans qu'il y ait pour autant la notion du temps, dans un espace défini et dans une notion mentale. L'éternité a donc des cycles, et ces cycles lui construisent une apparence perpétuelle. Et grâce à cette perpétuité, le Dieu qui est éternel nourrit son éternité. Autrement dit, si vous, vous voulez changer quelque chose sur la terre et pas simplement regarder ce qui se passe et profiter de ce qu'il y aura de bien et essayer de vous mettre à l'abri de ce qu'il y aura du mal, si vous voulez faire quelque chose sur la terre, vous devez avant tout essayer de vous convaincre vous-même, mais aussi tout votre entourage, que la terre entière est une divinité, que l'humanité entière est une divinité, et que l'humanité en entier représente le point d'incarnation d'un Dieu qui est en train de naître. Et il est en train de naître non pas comme s'il n'avait jamais vécu et qu'il venait à la vie pour la première fois, il est en train de renaître, de se reformer, de se revitaliser, de se redonner en fait une jeunesse. Et face à cette jeunesse et grâce à cette jeunesse, il se trouve face à lui des millions et des millions d'années à vivre. des millions d'années qui n'ont rien à voir avec les années que vous supposez. C'est ce que l'on appelle des yugas, des âges, les grands âges de Brahma. La partie que vous connaissez de la vie du grand être, cette partie que vous connaissez qui est concrète, est en fait la partie la plus petite. La partie la plus grande, c'est celle qui aura lieu quand tout sera réintégré. C'est à ce moment-là que la partie la plus grande de la vie aura lieu. Donc, votre premier travail, ce n'est pas simplement d'évoluer, d'être un bon disciple, de bien aligner les chakras, de ne plus manger de la viande, de faire des efforts sur soi-même, de se convaincre du bien fondé de la spiritualité. Si l'on veut changer les choses sur la terre, cela ne suffit pas. Parce qu'il y aura toujours un certain nombre d'hommes qui ne voudront rien entendre de ce type de valeur. Il faut parler de Dieu d'une façon différente. Il ne faut pas dire « Tu dois évoluer, tu dois retourner vers Dieu. C'est de là que tu viens, c'est là que tu dois retourner. C'est la loi. » Il ne faut pas dire ces choses, car l'homme qui vient de la tradition ne veut absolument pas réintégrer la divinité, laisser tomber son humanité pour retrouver la divinité. Il veut vivre une vie d'homme. Ce qu'il faut donc faire, c'est diviniser la vie, tout simplement. Se détacher des concepts même de l'évolution, du devoir du disciple, du devoir de l'initié, de l'impératif de l'évolution, avec au bout le jugement dernier comme grand châtiment. Il faut sacraliser la vie tout entière et la voir comme l'expression d'une grande divinité que l'on appellera plus Dieu, que l'on appellera la vie, l'existence. Changeons tous les concepts. Et en changeant les concepts, on s'aperçoit que l'on peut faire admettre les grandes lois cosmiques. C'est ce que permettra l'âge du Verseau. L'âge du Verseau changera de fond en comble tous les concepts, ce qui fait que, à l'approche réelle de l'âge du Verseau, lorsque vraiment l'humanité aura la pointe des pieds sur son seuil, l'on s'apercevra qu'il y aura des énormes crises religieuses et culturelles. Et pas simplement parce que l'on change d'air, mais parce que toutes les conceptualisations vont être complètement différentes. L'idée même de Dieu va être reniée. Aucun homme ne voudra plus croire en Dieu, prier un Dieu, imaginer même un Dieu. Et c'est pour cela, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut absolument que l'humanité, pour arriver à ce genre de conception, il faut absolument que l'humanité développe son mental abstrait. Parce que les concepts qui vont être émis, qui vont être envoyés sur l'esprit des hommes, ces concepts-là vont faire énormément appel à l'intuition. On ne voudra plus de Dieu en tant que Dieu, mais par contre, on voudra ressentir en soi la réalité d'un grand principe qui est l'existence, qui fait une grande roue et un grand mouvement depuis sa zone la plus éthérée jusque dans la matière et puis y retourne. On ne voudra plus non plus de qualités telles que l'humilité ou le défaut.